Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Sylvain Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Colol, nous vous offrons cette semaine un programme avec deux escales sur le continent américain. Le Pérou en crise depuis que le président Cortés aurait été démis le 7 décembre, avec une forte répression et une caravane vers la capitale, Lima, de milliers de manifestants qui réclament le départ de la présidente Dina Boluarte et de nouvelles élections. Et au Mexique, où le président Andrés Manuel López Obrador a rencontré son homologue Joe Biden pour parler d'immigration et de trafic de drogue. Au Pérou, cette semaine, converge vers Lima une grande caravane réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte, malgré l'état d'urgence déclaré dans plusieurs régions. La répression des manifestations anti-gouvernementales a causé la mort de plus de 40 personnes et une enquête a été ouverte pour génocide à l'encontre de la présidente. On partage différents rapports de médias français, France 24, TV5 et RFI, et l'analyse de Tania Romero, doctorante en études hispaniques.
Depuis la destitution et l'incarcération de l'ex-président Castillo, début décembre, on manifeste au Pérou et Marie. Des milliers de personnes convergent ce lundi vers Lima.
Oui, et ce malgré l'état d'urgence déclaré pour 30 jours, notamment dans les départements de Puno, Cusco, Lima et la province de Callao. Le décret qui autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre est publié aujourd'hui dans le journal officiel El Peruano. Depuis 5 semaines, les manifestants protestent contre la présidente Dina Boluarte et réclament donc de nouvelles élections. Le mouvement a fait 42 morts, comme le rappelle Oro Publico. Le média en ligne soutient que son analyse d'une série d'images, de témoignages, de manuels de police et d'autopsies met en évidence de graves violations des droits de l'homme au cours de la répression policière et militaire. En tout cas, en une d'El Comercio, le président du Conseil des ministres soutient qu'il serait irresponsable de voir la présidente démissionner. Cela reviendrait, selon lui, à ouvrir les vannes de l'anarchie, ce que souhaite un petit groupe organisé de personnes violentes. Écoutez. Dans cette interview télévisée reprise par El Comercio, il évoque un troisième groupe très organisé qui a développé, selon lui, une stratégie militaire financée par le trafic de drogue et les mines illégales. Il soutient que ces individus veulent prendre le pouvoir par la force et les qualifie d'ennemis d'État.
Accusations de terrorisme qui sont rejetées par l'ancien chef du renseignement intérieur.
Oui, dans une interview accordée à La Repubblica, il juge qu'il est stupide de dire que le pays fait face à une insurrection terroriste. Selon un sondage cité par le même journal, 60% des Péruviens justifient, soutiennent ces manifestations depuis décembre, même à Lima. Le Sud n'est pas seul dans ces protestations. La moitié du pays s'identifie à lui. L'appel à la tenue d'élections cette année en tant que mesure visant à apaiser les tensions devient plus urgent, juge le journal. Ce qui est inquiétant, c'est que cette décision est entre les mains d'un congrès que plus personne ne soutient.
On va plus loin avec notre invitée Tania Romero. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes doctorante en études hispaniques à l'université Paris 8. Il y a un véritable dialogue de sourds visiblement entre les manifestants et le gouvernement qui les traite de délinquants. Pour quelles raisons d'après vous ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je préciserai que pas seulement de délinquants, mais il y a aussi un terme spécifique qui a été pas mal utilisé dans ce contexte, qui est le terme terroriste, qui renvoie à l'action du terruqueo, c'est-à-dire critiquer ou en tout cas dire que l'adversaire politique est un terroriste. Et c'est une façon qui permet aussi d'une certaine façon de minimiser en fait les morts ou même de justifier l'usage si violent en fait des forces de l'ordre. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement.
Qui sont ces contestataires ? Ce sont de simples citoyens ? Il y a aussi des organisations paysannes ?
Oui, alors disons que effectivement là, la plupart des victimes en tout cas proviennent de plusieurs villes qui font partie des Andes péruviennes, des Andes du sud du Pérou. Il y a pas mal d'organisations paysannes, il y a pas mal d'organisations, mais après, effectivement, il y a aussi toute une masse en fait, de population extrêmement indignée qui n'est pas forcément organisée, mais en tout cas qui, suite notamment à l'escalade de morts, en fait, a aussi participé dans le cadre de ces manifestations.
Et le but de ces manifestants, donc, c'est la démission de la présidente par intérim, et ils veulent marcher sur la capitale, sur Lima. L'idée, c'est d'aller eux-mêmes destituer la présidente ?
Alors, il y a plusieurs, c'est vrai que les revendications sont assez hétérogènes, ça a un petit peu bougé aussi depuis le début des manifestations qui commencent, après la tentative de coup d'état de Castillo, et puis l'arrivée au pouvoir de Dina Boluarte, et effectivement on a la démission, enfin en tout cas de Dina Boluarte, qui est un petit peu le noyau en fait des revendications, la demande aussi d'une assemblée constituante, et notamment aussi la démission du Parlement, qui n'a que 10% en fait, actuellement d'acceptation en fait, de la population. Et effectivement, il y a une volonté d'aller vers Lima, en fait, pour faire ce qu'on appelle cette « marcha de los cuatro suyos », pour faire référence à cette grande manifestation qui a eu un rôle assez historique, en fait, à la fin du régime de Fujimori, et qui a mené tout un vaste nombre de la population péruvienne qui venait de différentes régions du Pérou vers Lima pour, justement, revendiquer et aller à la capitale, en fait, pour mettre en place ces revendications.
Et aujourd'hui, est-ce qu'ils en ont les capacités ? Est-ce que la présidente est menacée, en quelque sorte ?
Alors, effectivement, là, on a vu que les mobilisations à Puno étaient extrêmement massives, en fait. Enfin, on parle vraiment de milliers de personnes. Après, effectivement, il faudrait voir un peu, c'est un peu difficile parfois de suivre, dans la mesure où, effectivement, la presse nationale, qui est en grande partie, fait partie de El Comercio, qui possède 80% un peu du monopole des moyens d'information, n'est pas vraiment en train de montrer, en fait, ce qui se passe réellement en de ces mobilisations, mais ce que montre à la fois la presse indépendante et ce que montre la presse internationale, c'est qu'effectivement on parle vraiment de milliers de personnes et d'organisations locales en fait, qui effectivement pourraient arriver vers Lima, de façon un peu plus organisée en fait.
Ce qui choque aussi, ce qu'on retient dans la presse internationale, c'est ce bilan humain catastrophique, hein, plus de 40 morts, 17 morts en une seule journée dans la ville de Juliacas et dans le sud. Je lisais que la présidente Boluarte paraissait déconnectée, certains parlent même d'une forme d'improvisation qui règne au gouvernement. Il y a un peu de tout cela.
Oui, tout à fait. En fait, dans son récent discours, il me semble que c'était hier, au moment même où elle apprenait en fait qu'il commençait à avoir de morts à Puno, elle disait à l'antenne qu'elle comprenait pas en fait pourquoi il y avait ces mobilisations encore. Et effectivement, après, c'est pas tellement qu'elle ne comprend pas. Enfin, on comprend très bien. Les revendications sont très claires, mais effectivement, il y a une volonté de négation en fait de ces revendications et aussi une instrumentalisation en fait où justement on retrouve à nouveau cette décrédibilisation en fait des manifestants, cette construction qu'elle fait d'elle-même en fait, parce qu'elle-même elle est originaire des Andes, d'Apurímac, qu'elle se présente un petit peu comme cette représentante du peuple du Pérou profond en fait, donc il y a vraiment un véritable jeu de construction politique et de négationnisme en fait, de négation de ce qui est en train de réellement se passer dans les rues au Pérou.
Donc l'idée pour elle, c'est bien sûr de s'accrocher au pouvoir. Il y a néanmoins cette enquête et l'ouverture par le parquet d'une enquête pour génocide contre Boluarte. Elle risque gros.
Alors, très sincèrement, je ne sais pas vraiment à quoi ça va aboutir, en fait, cette enquête. C'est un terme qui a déjà fait, l'objet de plusieurs... Il y a déjà eu des accusations, même, au président Biscard en 2020, dans le cadre de sa gestion du Covid, par exemple. Il y a eu aussi une tentative d'accusation pour génocide. Très sincèrement, je ne pense pas que ça va aboutir, et ça peut même être assez assez polémique en fait d'utiliser ce terme dans le cadre de ces manifestations. Et même le parquet, il faudrait aussi savoir que il est lui-même en fait, il fait l'objet de pas mal de scandales de corruption. Donc effectivement, on ne sait pas trop dans quelle mesure, si c'est plutôt voilà un peu disons un jeu discursif qui pourrait permettre de faire un peu de bruit à ce sujet. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a effectivement des cas extrêmement graves de violations de droits humains. En fait, il y a un usage extrêmement irresponsable et complice de la presse. Et effectivement, voilà, il y a des recherches, des enquêtes qui doivent être effectivement menées pour que la vérité soit, voilà, soit faite sur ces morts, en fait, de la part de la police et de l'armée, et pour qu'il puisse avoir aussi une justice pour voilà, les victimes.
Dans la capitale, ils sont des centaines rassemblés dans le centre-ville. Malgré l'état d'urgence qui suspend la liberté de circulation et de réunion, ces Péruviens continuent de réclamer de nouvelles élections, avec comme préalable le départ de la présidente Dina Boluarte.
Elle dit pardon, je suis désolée, mais elle ne dialogue pas avec nous. Elle envoie la police et les militaires pour tuer.
En 5 semaines, les heurts entre forces de l'ordre et manifestants ont fait plus de 40 morts. Alors, face aux policiers, les manifestants laissent éclater leur colère. Les manifestations ont commencé après la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président socialiste Pedro Castillo, accusé d'avoir voulu perpétrer un coup d'État. Dina Boluarte, sa vice-présidente, lui a succédé conformément à la Constitution. Elle s'est excusée pour les violences et les morts liées aux manifestations, mais pas question de céder pour la présidente.
Certaines voix provenant des partisans de la violence et des radicaux demandent ma démission, incitant la population au chaos, au désordre et aux destructions. À eux, je leur dis de façon responsable, je ne vais pas démissionner, mon engagement est avec le Pérou.
Dimanche, l'état d'urgence a été décrété dans la capitale, le port de Callao et dans les départements de Cusco et de Puno au sud, épicentre du mouvement. Ce week-end, de nombreux barrages routiers ont bloqué la circulation à travers le pays et le train pour le célèbre site Inca du Machu Picchu reste suspendu.
Des touristes escortés par les autorités péruviennes jusqu'à leur avion. Les vols reprennent peu à peu depuis l'aéroport de Cusco, encadrés par un important dispositif policier. Car depuis plusieurs jours, les voyages aériens et de nombreuses lignes ferroviaires sont à l'arrêt en raison d'un mouvement de protestation contre le gouvernement. Sur ces images, des centaines de touristes sont bloqués devant les portes fermées de l'aéroport. Un peu plus tôt cette semaine, dans la ville d'Arequipa, le tarmac était lui envahi par des manifestants. Pour les voyageurs bloqués, le séjour à l'autre bout du monde a viré au cauchemar.
Bonjour, on a besoin d'aide, on est pris en otage au Pérou, on n'a ni argent, ni eau, ni nourriture, ni électricité, on a besoin de votre aide.
Les autorités péruviennes ne font rien pour qu'on puisse rentrer chez nous. Nous sommes encerclés par des manifestants et nous avons peur de nous faire agresser.
Un appel à l'aide, lancé en début de semaine après que leurs bus ont été stoppés par des manifestants. Dans la région du Machu Picchu, ce serait pas moins de 5000 voyageurs étrangers qui seraient empêchés de rentrer chez eux.
On vient de marcher pendant 7h30 depuis le village au pied du Machu Picchu pour arriver ici, parce que les trains sont bloqués.
Pour la première fois depuis le début de son mandat, Joe Biden a visité le Mexique la semaine dernière. Au menu des discussions, notamment le dossier de l'immigration. Le nombre de franchissements non autorisés de la frontière entre le Mexique et les États-Unis a presque triplé depuis son entrée à la Maison-Blanche. Et rien qu'en 2022, près de 2,5 millions de personnes ont été arrêtées. L'analyse de RFI.
Direction le Mexique, où est Joe Biden depuis dimanche.
Just in the last 15 years, we've spent billions of dollars in the hemisphere. Tens of billions of dollars in the hemisphere.
Au cours des 15 dernières années, nous avons dépensé des milliards de dollars dans l'hémisphère. Nous devons continuer à soutenir et à construire des institutions démocratiques dans cet hémisphère sud. Les mots du président américain hier lors de sa rencontre bilatérale avec son homologue Obrador. Les deux présidents ont été rejoints à Mexico dans la soirée par le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les 13 amigos, comme on les appelle, rassemblés ce mardi pour évoquer notamment lors d'un sommet le sujet de l'immigration. Et on en parle avec avec vous, Olivier Richaume. Bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en civilisation américaine à l'université Le Lyon. Deux dossiers migratoires, il empoisonne le mandat de Joe Biden depuis sa prise de fonction. Quelques chiffres pour cause. Hein. Les franchissements non autorisés de la frontière entre le Mexique et les États-Unis ont presque triplé hein, depuis l'entrée en fonction du démocrate. En 2022, près de 2,5 millions de personnes ont ainsi été arrêtées à cette frontière. Olivier Richaume, preuve hein, avec ces chiffres que l'approche et les milliards dépensés, comme vient de le dire Joe Biden, eh bien, ça ne marche pas.
Oui, les États-Unis ont une force économique et militaire indéniable, mais effectivement, ils ne peuvent pas tout, surtout face à une situation qui est une situation avant tout politique. Donc Biden, c'est un peu tard, on aurait aimé qu'il y aille plus tôt, mais il envoie quand même un message très positif. On aime entendre dans la bouche du président, par opposition à ce que disait son prédécesseur. Donc le message est bon, mais il faut quand même admettre que l'hémisphère américain, pour reprendre son expression, est en crise. Il y a des crises politiques de partout, que les États-Unis ne peuvent pas régler ces crises politiques. Et d'ailleurs, même s'ils s'occupaient trop des politiques de leurs voisins, on leur reprocherait, pour reprendre un exemple de votre extrait, là, un pays que je connais bien et qui est cher à mon cœur, où j'ai vécu, Pérou. On voit que le Pérou s'enlise dans une crise politique majeure et il n'y a pas grand-chose que les États-Unis puissent faire à leur niveau.
Le Pérou et d'autres pays, donc effectivement, les crises qui sont à l'origine des mouvements de population. Le président mexicain, pourtant, hier, il a dit hein, à Joe Biden, vous avez les clés entre les mains. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il attend, lui, Joe Biden, de la part du Mexique aujourd'hui lors de ce sommet sur cette question migratoire ?
Il espère qu'ils vont trouver des accords qui sont de différentes natures. Donc ça va s'installer un rapport de force pour essayer de négocier au mieux dans l'intérêt de son pays sur NAFTA, sur la politique agricole, sur les problèmes de trafic de drogue et puis bien évidemment sur l'immigration qui fait partie des enjeux que depuis la présidence précédente, on a un peu complètement sous-traité au Mexique, ce qui crée des problèmes pour l'État mexicain.
Mais si je vous suis, ça veut dire concrètement, Joe Biden aujourd'hui, il dit à Andrés Manuel Pérez Obrador, voilà, on vous aide sur l'économie, on vous aide dans la lutte contre le trafic de drogue. En échange, vous nous aidez à retenir sur votre sol les migrants qu'on ne veut pas voir rentrer aux États-Unis. C'est ça le deal, en fait ?
Oui, les demandes d'asile ne veulent plus que ça se passe aux États-Unis. Ils veulent que ça se passe dans les pays demandeurs. Donc, on a demandé au Guatemala, on a demandé au Mexique. Le problème, c'est quand ils arrivaient aux États-Unis, après, comme on n'a pas assez de juges, on les mettait dans des camps, donc c'est un problème. Et puis après, on les libérait, ils partaient dans la nature. C'est pour ça qu'on avait des personnes qui étaient en situation irrégulière aux États-Unis. Et donc, c'est plus facile de le laisser à l'extérieur. Mais bon, on a vu ça ailleurs. L'Union européenne a donné plusieurs milliards à la Turquie pour faire pareil. Donc voilà, c'est le but des négociations. Tout ça, ça a un prix.
Dans le cadre, il faut replacer ça, de ce qu'a dit et annoncé la semaine dernière Joe Biden. En gros, pareil là, ne venez pas, effectivement, faites les demandes dans les pays d'origine, dans vos pays. Il a quand même annoncé des concessions pour les migrants en provenance d'Haïti, du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua. Seuls 30 000 seront acceptés par mois avec une procédure légale. En fait, il augmente les voies légales de l'immigration tout en étant plus dur vers les migrants illégaux. On le sent quand même, là, le président américain dans une impasse hein, sur ce dossier.
Alors, c'est un bon changement, c'est un changement positif hein, par rapport à son prédécesseur, donc vous avez raison de le rappeler. Mais effectivement, la présidence, en particulier le président des États-Unis, est bien embêté avec cette question de l'immigration. Je pense même que les démocrates en ont assez peur, parce que c'est un sujet qui, en fait, c'est le seul sujet vraiment qui a l'air de mettre les républicains, républicains d'accord. Et donc on voit bien qu'on a attendu, on a laissé en place la politique qu'avait mis Donald Trump en place avec le titre 42, on utilise la COVID-19 pour empêcher que les gens rentrent aux États-Unis. Et puis là, on a attendu après les élections de mi-mandat pour se remettre un peu dans un dossier qui, en fait, on a une crise humanitaire majeure qui est là et puis qui est là depuis des années et qui risque de s'installer.
Ce titre 42 que vous évoquez d'ailleurs, donc effectivement mis en place pendant la pandémie, qui pourrait d'ailleurs être levé hein, par la Cour suprême d'ici le printemps. Sans doute, ça ne fera pas les affaires, si tel est le cas, de Joe Biden, hein, puisqu'il pourrait y avoir une arrivée encore plus massive au niveau de la frontière. Mais qu'on comprenne bien, Olivier Richaume, la solution, elle est où finalement, la vraie solution ? C'est au Congrès ? C'est par une loi ? C'est là que ça se joue finalement aux États-Unis ?
Oui, il n'y en a pas de solution. C'est bien le problème. Ça fait 20 ans, même plus. La dernière grande réforme de l'immigration avec Amnesty, elle date de 86 aux États-Unis. Donc, vous voyez que ça fait longtemps qu'on attend du nouveau à ce niveau-là. Effectivement, la situation politique de l'Amérique latine est ce qu'elle est. La situation, on va dire, des catastrophes naturelles et tout ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, ce que les États-Unis contrôlent, c'est leur politique. Et comme ça n'aura pas échappé à vos auditeurs, vous avez bien vu ce qui se passe à la Chambre des représentants, il ne faut pas attendre qu'il se passe grand-chose d'un point de vue législatif, en particulier avec ce serpent de mer, la grande réforme de l'immigration qu'on attend depuis au moins deux décennies aux États-Unis, sur lesquelles Washington n'arrive pas à se mettre d'accord.
Ouais, il n'a pas réussi, quand il avait une Chambre démocrate, il y arrivera, vous nous dites, encore moins avec une Chambre républicaine. Dernière chose, en attendant, alors, si je puis dire qu'un jour, peut-être une réforme advienne, quelles sont les solutions ? On parle, enfin Joe Biden et Obrador hier le disaient, s'attaquer aux racines du phénomène dans les pays d'origine. Mais on le répète et on le répète, Kamala Harris l'a dit lors de sa tournée l'an dernier, mais finalement s'attaquer aux racines, ça passe par quoi ? Est-ce qu'on a des avancées là depuis que la vice-présidente elle est allée dans les pays concernés l'an dernier ?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, la situation politique dans ces pays est toujours difficile. Même les aides humanitaires, vous voyez bien que c'est difficile, on n'ose pas trop, on ne sait pas trop comment envoyer de l'argent dans ces pays, parce que ça se retrouve vite, vu les niveaux de corruption dans les mains de personnes dont on ne veut pas. Ça ne va pas forcément aux endroits où on veut, donc voilà, la manne financière ne suffit pas. Non, ce qu'on fait, c'est ce qu'on va continuer de faire. Alors, on change quand même un petit peu de ton. On voit que les démocrates ont quand même bien vu la nature du problème, notamment l'aspect humanitaire de la chose. Donc, on a un discours qui est quand même beaucoup plus sensé que le discours de l'administration précédente, mais on y va avec, on va dire, des mesurettes par rapport à l'ampleur du problème. Et donc, on va essayer de garder ça sous contrôle, tant bien que mal, en n'y mettant pas toujours les moyens qu'on aimerait y mettre, et puis en espérant que à la prochaine élection électorale, l'opposition ne l'utilise pas trop contre nous. Mais voilà, il ne faut pas espérer autre chose, hélas, de cette rencontre tripartite. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olviden, tenganlo presente. Que aquellos a los que no...
Toujours au Mexique, les habitants de la capitale Mexico souffrent de la pollution atmosphérique. Chaque année, entre 8000 et 14000 personnes meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. Un rapport de Radio France Internationale.
La capitale mexicaine, où les habitants souffrent de la pollution atmosphérique, chaque année entre 8000 et 14000 personnes mourraient prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. La ville est régulièrement en alerte, mais les habitants n'y font plus attention tant ils ont l'habitude. Mais le problème est si grave que des confinements ont même été décrétés, 6 en tout, cette année, Gwendolina Duval.
C'est ça le dispositif qui mesure la qualité de l'air.
À Mexico, Horacio Jiménez montre une petite boîte grise fixée au-dessus d'un kiosque. Il a fondé l'entreprise qui fabrique ces mini-stations de surveillance atmosphérique.
Celui-ci mesure les particules en suspension, l'ozone, le monoxyde de carbone, ainsi que la température et l'humidité relative. Si vous regardez, elles ne sont pas au sommet d'un immeuble, mais à notre niveau, parce que nous voulons qu'elles soient représentatives de ce que nous respirons réellement.
La pollution de l'air est un sujet bien familier des habitants de la capitale mexicaine.
J'aime utiliser le masque précisément pour ça. Ce n'est pas seulement à cause de la pandémie. Moi, ça m'aide.
Physiquement, ça se sent au niveau de la respiration, des yeux aussi. Par exemple, ma fille a 11 ans. Elle est née ici, dans la ville de Mexico. Et les trois premières années de sa vie, elle a eu une série de maladies respiratoires. Et ce, jusqu'à ce que son corps s'habitue à la pollution.
Déjà présente dans les années 80, tant l'été que l'hiver, la pollution de l'air est un enjeu majeur de la vallée de Mexico. Rodolfo Sosa Echeverria, chercheur à l'Institut des sciences environnementales, explique que c'est aussi à cause de sa situation géographique.
C'est un bassin pratiquement fermé. Ça empêche la dispersion horizontale des contaminants. Ensuite, les vents dominants viennent du nord au sud. La zone montagneuse est sud, donc la pollution vient et s'accumule. Et depuis très longtemps, la ville a été dessinée avec une zone industrielle au nord.
Les critères des autorités de la mégalopole sont trois fois plus laxistes que les recommandations de l'OMS. Et seule une petite partie des éléments polluants est mesurée.
On ne voit que la pointe de l'iceberg quand nous parlons des substances critères. Il faut qu'on travaille sur les contaminants toxiques, tant les organiques que les chimiques.
Mesurer les taux et la nature de pollution est donc indispensable pour mieux identifier les sources et prévenir les risques. Horacio Jiménez espère passer de 7 à une trentaine le nombre de ces mini-stations de mesure.
Nous utilisons les transports publics et notre voiture privée de manière massive. Nous consommons évidemment des produits que les industries fabriquent, donc c'est un problème multivariable. Mais je pense qu'en renforçant la capacité d'obtenir des informations sur la qualité de l'air à une échelle individuelle, on peut d'abord mieux comprendre et ensuite prendre des actions très spécifiques pour l'améliorer.
Actions de mitigation muy específicas.
Selon lui, au même titre que l'accès à l'eau, respirer un air sain doit être considéré comme un droit fondamental.
Podemos dotar de estos servicios a comunidades que nunca han tenido una
línea. On pourrait donner ce service à des communautés qui n'ont jamais eu la moindre idée de la qualité de l'air où ils se trouvent. Et ça, c'est un sujet de justice sociale, que toutes les communautés, n'importe quel individu, quel que soit son milieu, son niveau social ou son secteur économique au Mexique, puissent avoir le droit de savoir personnellement ce qu'ils respirent.
À ce jour, Mexico est l'une des rares villes d'Amérique latine qui dispose d'une surveillance atmosphérique en temps réel.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai et l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.